Dr. John Oswald, Isaïe, Session 28, Isa. 58 à 59. Copyright 2024 John Oswald et Ted Hildebrand. C'est le Dr. John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 28, Isaïe chapitre 58 et 59. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette soirée. Nous vous remercions encore pour votre parole. Nous vous remercions encore pour votre esprit. Nous vous remercions de nous avoir donné votre lumière pour éclairer notre chemin. Et nous prions pour que vous nous aidiez à reconnaître ce que cette lumière nous indique du bien et du mal et que vous nous aidiez à apprendre, à recevoir, à appliquer et à vivre. En ton nom, nous prions, Amen. Nous examinons les chapitres 58 et 59 ce soir et ils font partie de cette section que j'ai appelée la justice, le caractère du service. Au fait, il y a d'anciens guides d'études sur le petit comptoir là-bas. Et en particulier, il y a plusieurs des premières leçons avec un aperçu et un contexte, etc. Donc, si vous avez besoin de compléter votre collection, consultez-la ici. Sinon, ils partent à la poubelle. Alors soyez en conscient. Voilà donc les chapitres 56 à 66. La semaine dernière, je vous ai fait remarquer qu'il semble que ces chapitres soient disposés en chiasme. Un chiasme est une structure parallèle. Donc, vous avez A, B, C, D, E, D, C, B, D, A. Cette dernière section est donc parallèle à cette première section. Les deuxièmes sections sont parallèles les unes aux autres, les troisièmes les unes aux autres, les quatrièmes les unes aux autres, et la cinquième se tient seule au sommet du triangle, au sommet de l'échelle. Une raison pour laquelle vous faites cela est que si vous n'aviez pas cette section, vous pourriez passer à côté de l'essentiel. Pourquoi Dieu fait-il ce qu'il fait, comme nous le verrons ce soir au chapitre 59, versets 16 à 21, et 63, 1 à 6? Pourquoi la lumière brille-t-elle grâce à l'œuvre du Messie? Ah, c'est pour que le monde le sache. Nous ne perdons donc pas de vue ce dont il s'agit, ce à quoi cela sert. Nous ne perdons pas non plus de vue le problème. Comment la lumière de Dieu peut-elle briller sur un monde perdu, étant donné que nous sommes incapables d'être justes en nous-mêmes? Et encore une fois, ce point est réitéré. Ne croyez pas que vous puissiez être en vous-même une personne juste. C'est un don de Dieu, mais c'est un don nécessaire. Ne croyez pas cela simplement parce que vous n'en êtes pas capable, cela n'a pas d'importance. Non, Dieu a en fait fait son œuvre en notre faveur afin que sa lumière puisse briller hors de nous et briller sur le monde. Donc, nous regardons, nous avons regardé la semaine dernière les chapitres 56 et 57, cette section d'ouverture sur les étrangers justes, puis la première déclaration sur les judéens injustes. Nous continuons ce soir en parlant de 58 et 59, du reste de la partie B et de la partie C. La semaine prochaine, nous allons couvrir tout cela, 63 à 66, car à bien des égards, cela répète ce que nous avons dit. Déjà parlé. Puis lors de notre dernière soirée, nous reviendrons et parlerons des chapitres 60 à 62, le point culminant du processus. Bon, alors ce soir, chapitres 58 et 59. Crie à haute voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, déclare à mon peuple sa transgression, à la maison de Jacob ses péchés, pourtant ils me cherchent quotidiennement, ils se plaisent à connaître mes voies, comme s'ils étaient une nation qui pratiquait la justice et n'abandonnait pas le jugement de son Dieu, ils me demandent des jugements justes, ils prennent plaisir à s'approcher de Dieu. Maintenant, quel est le problème ici? Hypocrisie, dit Mel, leur problème de cœur. Alors que font-ils extérieurement? D'accord, ils parlent, mais ils ne passent pas à l'action. Les formes de religion me recherchent quotidiennement, elles prennent plaisir à connaître mes voies, elles me demandent un jugement juste, elles prennent plaisir à s'approcher de Dieu. Eh bien, quel pasteur ne voudrait pas avoir une église pleine de ces gens? Très bien, très bien. D'accord, ils n'adorent pas vraiment Dieu, ils ne le recherchent pas vraiment pour eux-mêmes. Même, je pense que ça va, mais je vois ces mots et ils me concernent. Je cherche le Seigneur quotidiennement, je prends plaisir à connaître ses voies, comme s'ils étaient une nation qui pratiquait la justice et n'abandonnait pas la misère de son Dieu. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Répétez-le, le mot Mishpat peut être traduit par ordre. Oh, j'ai emporté le marqueur. Souvent traduit en justice, ou en jugement, et tout cela sont corrects, il n'y a rien de mal à cela, mais ce n'est tout simplement pas assez grand. L'ordre divin de Dieu pour la vie, l'ordre divin de Dieu pour l'existence, et cela implique la justice juridique, mais cela implique plus que cela. Donc, Je pense, pour répondre à la question, comment abandonne-t-il le Mishpat de Dieu? Nous devons passer au verset suivant. Pourquoi avons-nous jeûné et vous ne le voyez pas? Pourquoi nous sommes-nous affligés et vous n'en avez aucune idée? Pourquoi jeûne-il? D'après ces deux phrases. Ils veulent attirer l'attention de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons que vous voyiez que nous avons jeûné, nous voulons que vous preniez connaissance du fait que nous nous sommes affligés. Ils font pour obtenir. Exactement. J'ai mentionné en arrière-plan que la Bible est plutôt ambivalente à propos du jeûne. Il n'y a qu'un seul endroit où cela est commandé, et c'est le jour des expiations. Quand vous êtes censé vous affliger, et il est intéressant de noter que c'est le mot qui est utilisé, ce n'est pas le cas, ils n'ont pas de, il n'y a pas de mot hébreu qui signifie jeûne, c'est s'affliger. Ils sont censés s'affliger en se repentant de tous les péchés involontaires qu'ils ont commis au cours de l'année précédente. C'est donc un acte de tristesse. C'est un acte de repentir. C'est un acte de regret. Dans Joël 1.13, cela n'est pas ordonné mais cela est à nouveau préconisé comme expression de repentance nationale. Une épidémie de criquets s'est abattue sur eux, et ils sont invités à se repentir et à jeûner, excusez-moi, à se repentir et à jeûner. Néhémie jeûna et pria lorsqu'il apprit l'horrible nouvelle que les murs de Jérusalem étaient toujours en ruine après 100 ans. Ainsi, lorsque le jeûne est accompli, il est toujours destiné à être une expression de repentir. Mais je pense que la plupart du temps, le jeûne est pratiqué pour obtenir quelque chose de Dieu. Chez l'homme possédé par le démon, après être descendu de la montagne de la transfiguration, les disciples essaient de chasser le démon et ils n'y parviennent pas. Jésus le fait, et ensuite ils disent, pourquoi ne pourrions-nous pas le chasser? Il est intéressant de noter qu'il existe un problème textuel. Le King James dit que cette espèce ne se manifeste que par le jeûne et la prière. Les manuscrits les plus anciens disent que cette espèce ne sort que par la prière. Maintenant, je pense savoir pourquoi le jeûne est apparu dans les manuscrits ultérieurs, car il est clair que Jésus ne parle pas d'une réunion de prière ponctuelle. Peut-être que les disciples n'ont pas prié la première fois qu'ils ont essayé de chasser le démon. Je vous garantis qu'ils ont prié la deuxième fois qu'ils ont essayé de le chasser. Je pense que ce que Jésus dit, c'est que ce genre de choses ne se manifeste que grâce à une vie spirituelle durable et à une force spirituelle. Et je pense que le jeûne apparaît ensuite dans les manuscrits ultérieurs pour clarifier ce point, que c'est quelque chose qui doit se faire au fil du temps. Et donc je pense que c'est ce qui se passe dans ce passage, mais c'est intéressant. Nous obtenons donc une clé sur leur jeûne dans les versets suivants. Maintenant, ma question est la suivante, pensez-vous que c'est vraiment pour cela qu'ils jeûnaient, afin de se quereller, de se battre et de frapper avec un poing méchant? Que se passe-t-il ici? De quoi parle-t-il? Conflit au sein de l'Église. Peut-être. Mais remarquez-il, dit-il, le jour de votre jeûne, vous recherchez votre propre plaisir et opprimez tous vos ouvriers. Parce que j'ai été super religieux, donc je peux faire de mes ouvriers ce que je veux. Oh, je pense que oui. Je pense qu'ils se sentent proches de Dieu. Et Isaïe dit, non, ce n'est pas le cas. Eh bien, je pense qu'une possibilité est que nous ayons ici une hyperbole sémitique. En fait, vous êtes méchants envers vos ouvriers, et Isaïe dit que c'est comme avoir une bagarre avec eux. Encore une fois, je pense qu'il va peut-être à l'extrême pour essayer de faire valoir son point de vue. Vous jeûnez pour pouvoir maltraiter vos ouvriers et vous sentir bien à ce sujet. En fait, ce que vous jeûnez, c'est pour vous battre avec les gens. Je pense que c'est ce qui se passe ici. Qu'il exprime le véritable résultat de leur jeûne dans un langage très extrême. J'ai abandonné plus de chocolat que toi. Exactement. Exactement. Je pense que c'est exactement le point, et il utilise un langage fort pour essayer de clarifier ce point. Et je pense que cela remonte au verset 2. Comme s'ils étaient une nation qui pratiquait la justice et n'abandonnait pas la misère de son Dieu. Eh bien, l'ordre divin de Dieu est que nous vivons toute notre vie comme son reflet. Pas seulement notre vie religieuse, mais toute notre vie. Et je pense que c'est ce qui est dit dans ces deux premiers versets, « Oh oui, ils cherchent Dieu. Ils veulent vivre une merveilleuse expérience religieuse. Quel est ton problème? Pourquoi ne peux-tu pas nettoyer la maison mieux que ça? Dieu dit que vous ne voyez pas le lien, n'est-ce pas? Il semble que cela ressemble un peu au riche dirigeant qui s'en allait et il a laissé les talents à des travailleurs individuels, puis il est parti et nous ne savons pas ce qu'il est parti faire. Peut-être que c'était pour battre en retraite, jeûner et ainsi de suite. Et il revient et certaines personnes avaient travaillé et d'autres n'avaient pas travaillé et certaines personnes savaient qu'elles ne faisaient rien. Certaines personnes faisaient la fête.
Ouais.
Oui. Vous savez, ici, nous sommes également en train de jeûner et cela vous affecte en quelque sorte. Ce faisant, le véritable jeûne permet à l'amour de Dieu de faire le travail pour les autres et, par conséquent, le jeûne est réellement un acte d'amour de Dieu. Cela lui permet de sortir. Vous n'y êtes pas du tout impliqué. Votre nature est supprimée par le jeûne et donc vos actes deviennent réellement des actes d'amour.
Oui.
Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Je pense que le point clé est que le jeûne est une expression de repentance et vous ne vous repentez clairement de rien. Vous essayez simplement d'obtenir que Dieu vous bénisse. Et parce que vous essayez de manipuler Dieu, vous pouvez manipuler les gens qui travaillent pour vous. Cela pourrait-il revenir au concept de leur droit de naissance?
Même.
Et le peuple de Dieu et vous savez, me voici.
Ouais.
Et alors, qu'en est-il de tout le reste?
Oui.
Je suis un bon juif et Dieu nous a délivrés de la captivité parce que nous sommes juifs, pas pour une autre raison. Et je vais pratiquer ma religion juive et Dieu dit, vous n'avez pas compris l'essentiel, n'est-ce pas?
David?
Est-ce que c'est un peu comme une question de liberté?
Bien sûr.
Ou similaire?
Bien sûr.
Et quand a commencé le pharisaïsme?
Eh bien, nous n'en sommes pas sûrs.
Vous savez, nous avons 400 ans entre Malachie et Matthieu, et plus encore, Matthieu a probablement environ 65 ou 70 après J.C., mais entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre Malachie et la venue du Christ. Nous connaissons un peu la situation politique, qui était assez épouvantable. Au cours des 100 ou 150 dernières années, ils avaient un royaume, mais c'était un royaume incroyablement corrompu et la prêtrise était également corrompue. Assassinat, achat et vente du sacerdoce, tout ça. À cette époque, et c'est probablement au cours des 150 dernières années, de 150 avant J.C. jusqu'à l'époque du Christ, on nous dit qu'il y avait jusqu'à 80 sectes différentes du judaïsme. Un peu comme combien de partis politiques y a-t-il en France? Et c'est un peu la même affaire. Toutes les 10 personnes ont leur propre secte. Eh bien, la secte dominante, eh bien, je ne devrais peut-être pas dire ça. Les 3 sectes dominantes étaient les Sadducéens, qui constituaient essentiellement l'élite. C'était eux qui dirigeaient le spectacle. Les grands prêtres faisaient partie des Sadducéens et des Pharisiens, j'en reparlerai dans une minute, et des Zélotes. Les Zélotes étaient un groupe politique déterminé à éliminer les Romains et à restaurer le royaume qu'ils avaient eu, lequel royaume était un tel désordre que les deux parties ont invité les Romains à venir les aider, ce que les Romains étaient heureux de faire. Mais vous savez, nous y sommes. Vous ne comprenez pas comment les Romains sont arrivés ici, n'est-ce pas? Mais nous allons nous en débarrasser. Donc, vous avez ces 3 groupes qui sont probablement les 3 plus grands. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a au moins un parmi les disciples, Simon le Zélote. Mais les pharisiens le disent, et encore une fois, je suis convaincu que Jésus était partout sur eux parce qu'ils étaient si proches du royaume. Jésus a très peu à dire aux Sadducéens. Il s'agit de l'élite au pouvoir qui utilise la religion à ses propres fins, sans parler d'eux. Mais les pharisiens, Jésus est partout sur eux. Et vous vous souvenez que 3000 pharisiens se sont convertis au début des Actes. Donc, ce sont des gens qui disent, nous comprenons pourquoi nous sommes allés en captivité. Nous sommes allés en captivité parce que nous avions enfreint la loi. Eh bien, nous n'allons plus faire ça. Nous allons observer la loi de Dieu. Nous allons le conserver parfaitement, jusqu'à payer la dîme des herbes dans nos placards. Il y a un sens dans lequel Jésus dit, c'est très bien. Mais vous utilisez simplement ça pour vous gonfler. Vous souvenez-vous de l'histoire de Jésus concernant le pharisien et le publicain dans le temple? Je remercie Dieu de ne pas être comme ce percepteur d'impôts. Alors oui, ce qui se passe avec les pharisiens est le même genre de chose 400 ans plus tard. Alors, quel genre de fait Dieu veut-il? Verset 5. Eh bien, et puis au verset 6, il dit essentiellement ce qu'il ne veut pas au verset 5. Il veut que cela concerne les autres.
Oui.
Ouais.
Matthieu 25.
Oui.
Oui.
Si tu veux arrêter de manger, très bien. Donnez votre nourriture à ceux qui ont faim.
Quoi?
Pourquoi devrais-je le faire?
Si vous voulez arrêter de faire quelque chose, arrêtez de tabasser vos travailleurs.
Oui.
Le but tout entier, ce sont les autres. Le jeûne a tendance à se concentrer sur moi. Et vous vous souvenez que Jésus a parlé du jeûne. Et quand il a dit,
vous savez, vous jeûnez et vous mettez du noir sur vos joues pour qu'elles paraissent creuses et que vous ayez vraiment l'air affamé. Et les gens disent, oh mon Dieu, n'est-il pas juste? Jésus dit, si tu jeûnes, va dans un placard et ne laisse personne savoir ce que tu fais. Il ne s'agit pas de vous. Mais encore une fois, je voudrais dire que le véritable jeûne, dans la Bible, concerne la repentance. Il n'a donc pas plu depuis 3 mois. Eh bien, appelons un jeûne. Alors, mon Dieu, nous n'allons pas manger pendant 2 jours. Alors, tu dois nous envoyer de la pluie. Dieu dit, pourquoi? Eh bien, nous nous affligeons. Eh bien, c'est sympa. Pourquoi fais-tu ça? Eh bien, pour que vous envoyiez de la pluie. Il est possible que Dieu n'envoie pas de pluie parce que nous opprimons tellement les pauvres qui nous entourent. Oh non, 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 mon Dieu, nous nous affligeons de te faire faire ce que nous voulons. Dieu dit que si vous voulez vous affliger, affligez-vous pour le bien des autres. Pas pour obtenir quelque chose de moi. Donc, libérez les liens de la méchanceté, dénouez les liens du joug, libérez les opprimés, brisez tout joug, partagez votre pain avec celui qui a faim et faites entrer dans votre maison les pauvres sans-abri. Lorsque vous voyez un homme nu le couvrir, ne vous cachez pas de votre propre chair. Maintenant, vous avez le sentiment que Jésus a lu Isaïe. Quand avons-nous vu nu? Quand avons-nous vu en prison? Quand avons-nous vu avoir faim? Maintenant, pourquoi le bon traitement des autres, en particulier de ceux qui sont plus faibles que nous, est-il si important pour Yahweh? Et pourquoi est-ce si grave? La raison pour laquelle il est venu pour nous tous? D'accord, les opprimés sont une expression de notre péché. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Vous ne pouvez pas séparer l'amour de Dieu et l'amour des autres. Ils vont de pair. Si vous n'aimez pas les autres et ne prenez pas soin des pauvres et des opprimés, alors comment pouvez-vous vraiment dire que vous aimez Dieu? D'accord, je suis d'accord avec toi à 100%. J'aimerais cependant le pousser. Pourquoi l'amour des autres est-il si important pour Dieu? Pourquoi est-il indissociable? Sommes-nous faits à son image? Des relations? Pardon? Le premier commandement? Eh bien, je suppose que cela va de pair avec cela, mais Jésus a dit que ce que nous faisons aux autres, nous le faisons aussi à lui. Oui, oui, et je veux savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que je traite quelqu'un avec gentillesse en faisant quelque chose pour Jésus? Il semble avoir cette tendance à s'identifier aux plus pauvres, et donc ce que nous leur faisons, nous le lui faisons. Très bien, très bien. Il nous a aimés en premier. Je vais quand même te pousser. Pourquoi s'identifie-t-il aux plus pauvres? Les plus pauvres n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont rien à donner. Oui, oui, je pense que c'est ça. Ils ne peuvent pas vous rembourser. C'est gratuit. C'est la grâce, et Dieu est tout au sujet de la grâce. Si je fais quelque chose pour vous, vous pouvez et vous me rembourserez, et Dieu dit, où est le mérite? Mais lorsque nous faisons des choses pour ceux qui ne peuvent pas nous rembourser, nous démontrons la grâce de Dieu, et Dieu est avant tout une question de grâce. Alors, lorsque nous ferons cela, selon le verset 8, que se passera-t-il? Listons-les. Que se passe-t-il numéro 1? Lumière. Oui. La lumière jaillira de nous. Guérison. Très bien, quoi d'autre? Droiture. Vous aurez raison. Il entendra. Il entendra. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Ce qu'il fait pour nous l'est, et il reprend cela en 10b 11 et 12. Il vous guidera. Il rendra vos os forts. Vous serez comme un jardin arrosé. Les ruines seront reconstruites. On vous appellera réparateur de brèches, restaurateur de rues. Ouais. Justement, justement. Lorsque vous essayez de manipuler Dieu pour qu'il réponde à vos besoins, cela ne fonctionnera pas. Il ne sera pas manipulé. Mais lorsque vous mettez de côté vos besoins et cherchez à répondre aux besoins des autres, Dieu dit ici, tchat. Donc, toutes ces choses qu'il désire, qu'il réclame, et nous allons nous retrouver la semaine prochaine en 63 à 64 en particulier, ils sont vraiment sur Dieu. Mon Dieu, pourquoi tu ne le laisses pas? Vous savez, nous y sommes. Nous sommes de retour dans le pays et les prophètes ont fait toutes ces promesses. Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi ne nous bénis-tu pas? Et Dieu dit, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? C'est lorsque vous vivez ma vie juste que vous recevez en cadeau toutes ces choses pour lesquelles vous avez essayé de manipuler Dieu.
Mais Dieu.
Cherchez d'abord le royaume.
Ouais.
Ouais.
Valet.
Je vais donner.
Ouais.
Et je pense que Dieu sourit en quelque sorte à cela. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine en 63 à 64 en particulier, ils sont vraiment sur Dieu. Et je pense qu'il dit, si vous faites ce que je veux que vous fassiez, même pour des raisons qui ne sont pas les meilleures, je suis pour vous. Et je pense que nous avons probablement tous vécu cela dans nos vies. Quand nous l'avons fait, quand nous avons effectivement été fidèles, peut-être pas pour les meilleurs motifs, mais néanmoins, nous allions vraiment pour les autres. Dieu est prêt à nous rencontrer à mi-chemin. Je ne peux pas dire Dieu, mais il arrive un moment où faire pour les autres plutôt que pour soi-même devient un combat, et c'est le test. Jeanne dit qu'il arrive un moment où nous devons vraiment nous demander, est-ce que je fais cela pour les autres ou est-ce que je le fais pour moi-même? Et ça, c'est un test.
Et Dieu amène ce moment.
Ouais.
Ouais.
Donc, je pense que c'est toujours une question d'une importance vitale. Est-ce que je fais vraiment cela pour l'amour de Dieu? Et cela nous ramène à quelque chose qui, encore une fois, j'espère, vous semblera vaguement familier. Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3. J'ai besoin de sagesse.
J'ai besoin de beauté.
J'ai besoin de plaisir. Mon ami, le serpent dit, Dieu ne veut pas me les donner, et à bien des égards, la grande crise de la vie est de remettre mes besoins entre les mains de Dieu. Et dire que les meilleures choses que je reçois dans la vie sont mortelles, et les moindres choses que je reçois de Yahweh sont des bénédictions infinies. C'est là que la bataille doit être menée pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, je remets mes besoins entre tes mains et je te permets d'y répondre à ta manière. Là encore, la plupart du temps, il va utiliser nos capacités. Il va utiliser nos dons. Mais tout change quand nous disons, Seigneur Jésus, faisons à ta manière. Et je ne courrai pas devant toi. Je le ferai, et encore une fois, peut-être que cela vous est un peu familier, j'attendrai votre chemin. Et c'est de cela que parle le chapitre 12 de Genèse. Il n'y a rien de spirituel dans un morceau de terre, surtout sous vos ongles. Il n'y a rien de spirituel chez un bébé, surtout avec une couche pleine à 2h du matin. Et la réputation, nous sommes censés y renoncer, n'est-ce pas? Mais Dieu vient vers Abraham et dit, Abraham, je sais ce que tu veux. Me laisserais-tu te donner ces choses? Et tous les anges retinrent leur souffle. Tout le temps et l'éternité étaient suspendus à un point précis à ce moment-là. Va-t-il dire oui? Permettra-t-il à Dieu de répondre à ses besoins? Ou dira-t-il, non, non, je peux répondre à mes besoins mieux que vous. J'ai peur de toi. Je ne te fais pas confiance. Tu n'es pas pour moi. Mon ami, le serpent m'a dit tout cela. Et Abraham a dit, d'accord. Et tous les anges sont allés, il l'a fait.
Il l'a fait.
Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir.
Donc, une réponse longue, longue, mais d'une importance cruciale pour l'ensemble du message biblique. Qui répond à mes besoins?
Oui.
Je suis encore un peu gêné. Qu'est-ce que la vraie justice?
Job était un homme juste.
Tout lui a été enlevé. Il ne comprenait pas pourquoi. Il ne s'attendait pas à recevoir quoi que ce soit en retour. Et pourtant il a dit, même si Dieu me tue, je lui ferai confiance. Je ne m'attendais pas à ce que Dieu fasse autre chose que me tuer. Il m'avait déjà fait tout le reste. Et pourtant, il faisait confiance à Dieu. Il est resté un homme juste. Je ne suis pas sûr que j'obéirai à Dieu pour que Dieu prenne soin de moi. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une façon juste de vivre.
Oh non.
Non. Et si j'insinue cela, je ne veux pas. Je veux dire, Dieu, tu détermines quels sont mes besoins et tu les réponds à ta manière. Et si vous déterminez que tout ce dont j'ai besoin, c'est de rien et de mourir, c'est mieux que de dire non, je vais m'en occuper moi-même.
Merci.
Merci.
Oui, oui, oui.
Je ne veux pas dire oui, nous obéissons à Dieu pour qu'il réponde à nos besoins. Non, je dis que nous remettons nos besoins entre les mains de Dieu, lui permettons de décider quels sont nos véritables besoins et les satisfaisons à sa manière.
Oui.
Merci.
Merci.
Donc, tout cela découle de votre question, Dal.
Oui,
Je pense que si en fin de compte je vois simplement les pauvres comme un moyen d'aboutir à ma bénédiction, je ne les vois pas comme Dieu les voit. Dieu considère les gens comme une fin et non comme un moyen. Et vous et moi devons les voir de cette façon aussi. Mais Dieu est, comme je l'ai dit de diverses manières, Dieu a très peu d'orgueil. Il nous emmènera souvent sur les bases les plus douteuses. Il n'a pas l'intention de nous laisser là. Mais vous savez, je pense que l'exemple classique est Jacob. Bon sang. Ce type est un escroc. Un escroc à double mort. Il pose sa tête sur un rocher au milieu du désert, et Dieu apparaît et dit, « Jacob, je veux te bénir. » C'est une bonne chose que je n'étais pas Dieu à ce moment-là. Jacob ne se serait pas réveillé le lendemain matin. Mais Dieu dit, « Jacob, je suis prêt à t'accepter sur n'importe quelle base. » Pour commencer, ceux qui vont à l'église de Nicolasville en entendront peut-être davantage dans quelques semaines. D'accord. Et ouais. Maintenant, regardez les versets 13 et 14. Il dit, « Arrêtez de jeûner et commencez à faire quoi ? Observez le sabbat. Attends une minute. Pourquoi serait-il plus susceptible de jeûner que d'observer le sabbat ? D'accord. Je pense que c'est la bonne réponse. Elle pense qu'il gagnait de l'argent le jour du sabbat. Oui. L'observation du sabbat était une véritable privation. Si vous arrêtez de travailler le jour du sabbat, c'est un septième de votre revenu qui sera perdu. Donc c'est très intéressant. À travers les prophètes, vous les voyez attaquer les sacrifices, le culte rituel et exiger l'observance du sabbat. Parce que respecter le sabbat coûte vraiment cher. Et je trouve très intéressant que ces deux-là, qu'on pourrait croire assez similaires, soient en fait traités de manière très opposée. D'accord. Continuons. Chapitre 59, versets 1 à 15a, certains des passages les plus sombres de toute la Bible. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille sourde pour entendre. Mais vos iniquités ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés vous ont caché sa face afin qu'il n'entende pas. Vos mains sont souillées de sang. Vos doigts avec l'iniquité. Tes lèvres ont dit des mensonges. Ta langue marmonne la méchanceté. Personne ne se trompe à juste titre. Personne ne va honnêtement en justice. Ils s'appuient sur des arguments vides de sens. Ils disent des mensonges. Ils conçoivent le mal et donnent naissance à l'iniquité. Ouah. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Donc, peu importe la façon dont nous vivons. Nous sommes les élus. Ils font éclore des œufs de vipère. Ils tissent la toile d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt. De celle qui est écrasée, naît une vipère. Leurs toiles ne serviront pas de vêtements. Les hommes ne se couvriront pas de ce qu'ils fabriquent. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et des actes de violence sont entre leurs mains. Ouah. C'est une liste moche. Oui. Oui. Encore une fois, certains d'entre vous savent ce que je ressens à propos de la télévision. Combien de milliards sont dépensés dans la production télévisuelle? Et qu'est-ce qui est produit? Ils font éclore des œufs de vipère. Ils tissent la toile d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt. De celle qui est écrasée, naît une vipère. Leurs toiles ne serviront pas de vêtements. Les hommes ne se couvriront pas de ce qu'ils fabriquent. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et des actes de violence sont entre leurs mains. Ouah. Qu'est-ce qui est produit? Avec cette énorme dépense de temps, d'énergie et d'argent? Je vais laisser ça. Leurs pieds courent vers le mal. Ils sont prompts à verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. La désolation et la destruction sont sur leur route. Ils ne connaissent pas la voie du shalom. Il n'y a pas de mésaventure, de justice, sur leur chemin. Ils ont rendu leur route tortueuse. Personne qui les marche ne connaît le shalom. Par conséquent, Mishpa, la justice, est loin de nous. La justice ne nous dépasse pas. Nous espérons la lumière et voyons les ténèbres. Pour la luminosité, mais on marche dans la pénombre. Nous cherchons le mur à tâtons comme des aveugles. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. On trébuche à midi comme au crépuscule. Parmi ceux qui sont en pleine vigueur, nous sommes comme des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons et gémissons comme des colombes. Nous espérons un malheur, une justice, mais il n'y en a pas. pour le salut, mais c'est loin de nous. Car nos transgressions se multiplient devant toi. Nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Nous connaissons nos iniquités. Transgresser et renier le Seigneur. Revenir de suivre notre Dieu. Parler d'oppression et de révolte. Concevoir et prononcer du fond du cœur des paroles mensongères. La justice est revenue. La justice se tient au loin. La vérité a trébuché sur les places publiques. La droiture ne peut pas entrer. La vérité manque. Celui qui s'écarte du mal devient une proie. Waouh ! Incapacité à faire la justice. Voici ce à quoi nous sommes appelés. Voici ce que nous devons être. Voici ce dont le monde a besoin. Et nous ne le faisons pas. Maintenant, je pense que Dieu a fait cela exprès. En plein milieu du verset. Verset 15. Vous changez de vitesse. Le Seigneur l'a vu. Et cela lui déplaisait. Qu'il n'y avait pas de justice. Il vit qu'il n'y avait personne. Je me demandais qu'il n'y ait personne pour intercéder. Alors son propre bras lui apporta le salut. Et sa justice le soutenait. Il a revêtu la justice comme cuirasse. Un casque de salut sur la tête. Paul lisait Isaïe, n'est-ce pas? Il a revêtu des vêtements de vengeance en guise de vêtements. Il s'enveloppa de zèle comme d'un manteau. Il remboursera selon leurs actes. Colère à ses adversaires. Remboursement à ses ennemis. Aux îles, il remboursera. Alors ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest. Sa gloire dès le lever du soleil. Il viendra comme un ruisseau impétueux que pousse le vent du Seigneur. Un rédempteur viendra à Sion. À ceux de Jacob qui font quoi? Repentez-vous de leur rébellion. Leur transgression. Nous sommes donc incapables d'être justes. Il n'y a pas de lumière en nous. Il n'y a pas de guérison en nous. Il n'y a pas de justice en nous. Il n'y a pas de justice en nous. Dieu n'entend pas nos cris. Que faut-il faire? Et quelle est la réponse ici? Le Rédempteur. Le Messie. Le guerrier. La justice comme cuirasse. Casque de salut sur la tête. Des vêtements de vengeance pour des vêtements. En d'autres termes, la justice est requise. Quelqu'un a lu le chapitre 56, verset 1, gentiment et fort. Faites la justice. Gardez la justice. Pas de si, pas de et, pas de mais. Pourquoi? Parce que j'arrive. Et je vais montrer ma justice. La justice est requise. Pour que le monde le sache. Nous, parlant en tant que judéens, ne pouvons pas produire la justice. Le guerrier arrive. Maintenant, contre qui se bat-il? Ils reviennent de captivité. Ils reviennent de Babylone. Contre qui se bat-il? Quel est l'ennemi de ces gens? Leur péché. Oui. Le guerrier vient vaincre leur péché et leur permettre d'être justes. Ils doivent se repentir de leur propre tentative pour être justes en eux-mêmes et lui permettre de le faire en eux. Et ce n'est pas un hasard si le chapitre 60 commence par « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Personne ne peut faire cela à leur place. Personne ne peut le faire tout seul. Mais il vient pour le faire. Maintenant, une dernière chose et je vous laisse y aller. Regardez le verset 16. Qu'est-ce qui apporte le salut? Son propre bras. D'accord? Revenons maintenant au chapitre 53. Verset 1. Ouais, et tu es en avance sur moi. Qui a cru ce qu'ils ont entendu de nous? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Oui. Là, en 53, c'est une petite chose grêle. Cela semble impuissant. Maintenant, ici en 59, c'est un biceps de 27 pouces. Maintenant, c'est le guerrier qui est arrivé. Là, en 53, Dieu, dans sa faiblesse, prend en lui le péché du monde et rend l'amour. Maintenant, alors qu'il vient attaquer le péché en nous, il vient en guerrier pour nous permettre d'être ces choses qu'il attend. C'est malheureusement là que la théologie évangélique a déraillé dans une grande partie de l'Amérique du Nord. Autrement dit, non, nous ne pouvons pas être justes et on ne s'attend jamais à ce que nous soyons justes parce que Dieu nous regarde à travers des lunettes aux couleurs de Jésus et pense que nous sommes justes même si nous ne le sommes pas. Et je veux dire que ce n'est pas biblique. Dieu nous déclare-t-il innocents sur la base du sacrifice de Jésus?
Oui, il le fait.
Béni son saint nom. Et s'attend-il à ce que nous continuions à pécher pour que la grâce abonde? C'est amusant de voir toutes les différentes façons dont les traducteurs tentent de comprendre le point de vue de Paul s'ils sont dans Romains chapitre 6.
À Dieu ne plaise.
Que ce ne soit jamais le cas.
Qu'il n'en soit pas ainsi.
Je pense qu'une version vraiment contemporaine dirait, pas question, mec.
Bien sûr que non.
Oui, il nous déclare innocents sur la base de la croix de tout péché.
C'est le docteur John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe.
Il s'agit de la session numéro 28, Isaïe chapitre 58 et 59.